Notre humanité commune est enracinée dans les valeurs universelles des droits de l'homme. L'égalité, la non-discrimination, la dignité humaine et les libertés fondamentales. Agissons sans discrimination pour le respect des droits humains de chaque citoyen congolais. Alors, lève-toi, debout, défends tes droits et ceux des autres. Lève-toi, n'abandonne pas le combat.
Ceci est un message du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme.
Bien, Octobre Rose, un mois pour informer et sensibiliser sur le cancer du sein et du col de l'utérus, ces deux cancers qui sont mortels chez les femmes. Et ces maladies touchent aussi les jeunes filles, particulièrement les écolières. Elles évoluent, ce cancer évolue à bas bruit et les victimes s'en rendent compte au stade terminal de la maladie. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir le cancer du sein et du col de l'utérus chez les femmes et les jeunes filles? Eh bien, on en parle dans cette émission de la vie au quotidien. Nous avons sur ce plateau M. Dadi Bambedi, coordonnateur de l'ONG PSDS, Personnes Synchronisées pour le Développement Social. M. Dadi, bonjour.
Bonjour, M. Jody.
Alors, votre structure évolue, vous travaillez dans la lutte contre le cancer. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous faites concrètement?
Oui, notre ONG est dans trois domaines. Donc, nous sommes dans l'éducation, nous sommes dans la santé, nous sommes aussi dans le social. Mais depuis 2015, on est beaucoup plus centré en ce qui concerne la santé, donc dans l'aspect sanitaire. C'est par rapport à ça que nous sommes en train de faire une campagne de sensibilisation sur les méthodes préventives et de lutte contre les cancers du sein en milieu scolaire et dans des ONG ainsi que dans des églises.
Voilà, ainsi que dans les églises. Nous avons docteur Jeff Kanzia, médecin. Il est médecin sur ce plateau. Docteur, encore une fois, bonjour.
Bonjour, M. Joulet.
Alors, nous parlons du cancer du sein, du col de l'utérus. C'est quoi le cancer, docteur?
Oui, nous pouvons définir les cancers comme ce sont des cellules anormales qui s'installent dans un organe pour d'une façon anarchique et puis soit même incontrôlée pour perturber l'organe. C'est pourquoi aujourd'hui, du fait que vous avez parlé des cancers du sein, nous allons dire ceci. Avant d'atteindre le cancer du sein, nous devons expliquer d'abord les cancers. Dans ce qui forme d'abord l'organisme, c'est quoi? C'est les cellules. L'ensemble des cellules forment les tissus et les tissus forment ce que nous appelons les corps humains. Maintenant, chaque organe qui constitue le corps humain a plusieurs structures du point de vue cellulaire. Il y a des cellules qui sont rectangulaires, il y a des cellules qui sont circulaires, ainsi de suite. Maintenant, il arrive que une des cellules anormales qui a d'autres formes que par rapport à la cellule qui se trouve dans l'organe va perturber maintenant le bon fonctionnement de ces cellules et enfin, c'est à ce moment-là que nous allons parler des cancers. Maintenant, on peut définir maintenant les cancers du sein comme c'est la présence des cellules anormales qui se multiplient d'une façon anarchique ou incontrôlée et qui vont perturber le fonctionnement des cellules qui se trouvent au sein du sein.
Donc c'est une multiplication anormale des cellules.
Oui, c'est une multiplication anormale et incontrôlée.
Et incontrôlée des cellules.
Oui.
Donc ça peut se faire au niveau du sein, tout comme au niveau du col de l'utérus.
Tout comme au niveau du col de l'utérus et même dans d'autres organes.
Et quels sont les facteurs qui favorisent cette multiplication incontrôlée des cellules?
Nous avons plusieurs facteurs. Parmi ces facteurs, nous avons synthétisé en deux. Le premier facteur, c'est le facteur exogène. Et le deuxième facteur, c'est endogène. Je peux commencer d'abord par le facteur endogène. Le facteur endogène sont liés par les gènes. Donc, il y a une transmission des gènes d'une génération à une autre. C'est-à-dire quoi? Dans une famille, par exemple, si vous aviez un cas de cancer du sein, ça peut se présenter encore à la longue, après une génération, à une autre fille ou autre femme, avec ce même tableau. Donc, il y a une transmission des gènes d'une génération à une autre. C'est là que nous appelons le facteur endogène. C'est lié au gène. Mmh. Tandis que nous avons d'autres facteurs que nous appelons exogènes. Ce facteur, c'est acquis au cours de la vie. C'est pendant la vie que nous sommes que nous pouvons être exposés à faire le cancer. Par exemple, c'est quoi? C'est l'exposition à des radiations, comme les rayons X, ou autres, on peut parler de certains, donc exposition de certains produits chimiques qui sont toxiques. Je peux donner aussi un exemple, le plomb ou l'aluminium. Donc, ils peuvent être à la base de vous donner les cancers à la longue. Il y a aussi des mauvaises habitudes, comme le tabagisme, l'alcoolisme, peut vous entraîner à faire le cancer du sein. D'autre part, c'est une mauvaise alimentation. Par exemple, l'excès de graisse. L'excès de graisse peut vous entraîner à cela. Nous avons encore l'activité sexuelle, donc la puberté précoce ou tardive. La puberté vient à partir de 12 ans. Mais une fille qui se présente déjà, qui voit le premier règle qu'on appelle ménarche, en l'âge de 9 ans, 10 ans, cette fille est exposée à faire le cancer du sein. Donc c'est une puberté qui est précoce. Et on peut assister aussi à une puberté tardive. C'est-à-dire, au lieu que vous puissiez voir le premier règle à 12 ans, vous allez au-delà de 15 ans. À ce moment-là aussi...
Mais comment expliquez-vous, docteur, qu'avant, on n'avait pas autant de cas de cancer comme c'est le cas aujourd'hui? Et ça touche de plus en plus même les jeunes filles.
Oui, je vous ai évoqué ici qu'il y a une mauvaise alimentation. Actuellement, nous avons une mauvaise alimentation. On n'arrive pas à bien gérer. Il n'y a pas l'activité physique. Nous consommons beaucoup de graisse. Or, pour autant, il y a d'autres préventions que nous allons parler plus tard pour que nous ne puissions pas être exposés à faire le cancer du sein. C'est un peu ça.
Alors, comment est-ce qu'on peut arriver à prévenir le cancer du sein, par exemple?
Pour arriver à prévenir le cancer du sein, nous devons tenir compte de plusieurs mesures. Premièrement, c'est le mesure hygiéno-diététique. C'est comme je vous ai dit, c'est suite à une mauvaise alimentation. Donc, nous devons avoir une alimentation saine. C'est-à-dire quoi? Consommer plus de fruits, les légumes, éviter beaucoup de repas, donc beaucoup de graisse, et arrêter le tabagisme, consommer moins l'alcool, et pas éviter, mais il faut plus des activités physiques que nous ne faisons rarement.
Et comment se manifeste quels sont les signes d'un cancer, par exemple, d'un cancer du sein chez la femme?
Premièrement, nous avons la présence d'une masse dure au niveau du sein. Cette masse, si vous ne tenez pas compte de cela, elle va se développer et à un moment donné, ça va vous demander d'amputer le sein. D'autre part, vous pouvez assister à un écoulement du mamelon. Et donc, il y a des sécrétions anormales qui sortent au niveau des tétons. C'est un problème. Or, nous savons que c'est seulement la femme qui allait qui doit sécréter le lait maternel. Mais en dehors de l'allaitement, si on trouve qu'il y a des sécrétions au niveau des seins, des mamelons, à ce moment-là, c'est un danger, il faut voir le médecin. En dehors de ça, nous avons encore des douleurs au niveau du sein. Il y a des femmes qui viennent avec ce tableau-là, des douleurs au niveau du sein. Et lorsqu'ils viennent, à ce moment-là, on peut constater que non, ça c'est un début du cancer, ou soit le cancer a été déjà installé. Il y a aussi les rétractions mammaires, c'est-à-dire les seins, au lieu que ça soit allongé vers devant, et à son tour, les mamelons, tout ça est rentré dedans, comme s'il retournait. À ce moment-là, ce sont aussi parmi les signes. Et d'autre part, il y a des signes aussi de l'inflammation, comme rougeur, comme encore l'épaississement, ainsi que le durcissement du sein.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour... Donc, tout signe sur les seins doit interpeller. Disons, lorsque les femmes constatent qu'il y a des signes au niveau du sein, il faut rapidement aller consulter.
Certainement, ils doivent aller consulter. Mais il y a aussi des mesures de prévention pendant chaque consultation d'une femme chez le médecin ou chez un personnel de santé. Oui.
Alors, là, par exemple, pour le cas de la mammographie, il semble qu'il y a un examen qu'on appelle mammographie et que, auquel on invite souvent les femmes à aller passer cet examen-là.
Oui, mais c'est joli. Il y a des examens que nous faisions lorsqu'on a détecté surtout la présence des nodules là, des masses.
C'est quoi de nodules? Vous parlez de nodules?
Oui, les nodules, ce sont des boules, des boules d'huile qui se trouvent à l'intérieur du sein. Et ce sont des boules qui peuvent vous conduire à un tableau de cancer du sein. Ça peut être aussi bénigne, donc, ou ça peut être maligne.
Mais toute boule n'est pas synonyme de cancer.
Non,
ça peut ou ne pas être cancer.
Toute boule n'est pas synonyme de cancer. C'est pourquoi nous devons courir à ces examens que vous venez de citer.
La mammographie.
Maintenant, on ne peut pas, à n'importe quelle femme, utiliser cet examen-là. Nous devons utiliser l'examen de mammographie seulement à une femme qui a de gros seins. D'abord, c'est ça. Deuxièmement, une femme âgée. Tandis qu'une femme qui a des seins denses, on ne peut pas utiliser la mammographie. À ce moment-là, nous devons recommander l'échographie mammaire. Et pendant cette échographie mammaire, que l'échographiste va nous informer que ça, c'est d'origine maligne ou bien bénigne.
Monsieur Dadi Mamedi, au niveau de votre structure ONG, vous organisez également des examens en faveur des filles dans les écoles, dans les églises. Racontez-nous comment ça se passe.
Oui, monsieur Jody, à notre niveau, jusque-là, nous n'allons pas encore au niveau des examens. Au niveau des consultations, oui. Nous allons dans des écoles. Comme je venais de dire tout à l'heure, nous sommes en train de faire une campagne de sensibilisation en milieu scolaire. On a un accord avec la sous-coordination provinciale des écoles catholiques de Moamba qui nous donne l'autorisation d'exécuter ces projets plutôt dans toutes ces écoles catholiques de Moamba. Alors, quand nous allons, nous sensibilisons avec le médecin, Dr Jeff et d'autres médecins. On a 20 médecins dans l'ONG. Nous sensibilisons le fils sur les méthodes préventives contre les cancers du sein et du col. Alors, là, nous axons plus sur les cancers du sein. Après la sensibilisation, il y a la phase des consultations. Là, nous parlons avec l'école. Et si l'école ainsi que les parents sont d'accord, on peut passer à la consultation. Et après la consultation, dès que
ça se fait au niveau même de l'école, ces consultations-là.
Oui, ça se fait au niveau de l'école. Et comme nous sommes en partenariat avec le prof Nguma, prof docteur Nguma, nous orientons tous les cas que les médecins détectent au niveau de l'école, des cas susceptibles au cancer, nous les orientons vers le prof Nguma qui recommande ou qui fait des examens appropriés. C'est avec lui que nous travaillons, le prof Nguma du centre Esperancia.
Déjà, combien d'écoles ont été touchées après les consultations? Quels sont les résultats que vous avez obtenus?
En tout cas, jusque-là, au niveau du Moamba, la sous-coordination provinciale a 29 écoles. Mais comme l'autorisation nous a été donnée à partir du mois d'avril, vu que la période des vacances devait intervenir au mois de mai-juin, on a pu faire dans 4 écoles. Mais avant ça, on faisait déjà aussi dans des écoles ainsi que des ONG. Alors, au niveau de ces 4 écoles, on a pu identifier 17 cas. 17 cas. Au moment où je vous parle, il y a
17 cas confirmés de cancer.
17 cas pas confirmés de cancer. Il y a des filles qui ont de nodules et il y a quelques-unes qui avaient des cancers. En parlant d'ailleurs, il y a une fille qu'on venait de perdre la semaine passée qui avait un problème de cancer. C'était un problème de cancer du sein. Et il s'est avéré que cette fille avait au même moment le problème du cancer du col. Elle n'avait que 23 ans. On vient de la perdre la semaine passée. Et au moment où je vous parle, il y a encore une fille qui doit subir une intervention chirurgicale. En tout cas, on nous a dit qu'au plus tard lundi, elle doit subir cette intervention. Donc on a 17 cas identifiés au niveau des écoles. Et vu qu'on le fait aussi dans des églises, ensemble avec les cas qu'on a à l'église, on a pratiquement plus de 45 cas, donc 46-47 cas des personnes vivant avec ces problèmes de cancer.
De cancer. On va accueillir 3 auditeurs en ligne. Nous parlons de la prévention du cancer du sein et du col chez la femme et la jeune fille. Jonas Kabinda, vous êtes à Kananga. Grégoire Moulamba, Demba et Dieudonné à Kinshasa. Jonas, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody. Bonjour à l'invité.
Bonjour.
Quelle est votre question, Jonas?
Oui. merci pour le sujet. Vous allez peut-être m'excuser pour la qualité de voix, un peu arrumée. En 2016, le 24 décembre, nous avions perdu la belle-mère. Elle était victime du cancer du col du terrain. Bon, mais comment cela est arrivé? Le médecin a parlé des causes exogènes. L'exemple que je vais donner là, c'est pour savoir si il y a aussi des causes. Non, plutôt, il n'y a pas eu des causes endogènes. Si c'est là, ça peut être aussi les causes exogènes. Elle avait subi une opération et le médecin qui l'avait opéré après un temps et il a eu le problème de fistules. À tout moment, il y avait des polyuries et tout ça. Mais quand on allait avec elle à l'hôpital, on disait non, il n'y a pas de problème, ça va pas créer, attendez, on va, et le spécialiste viendra à Chikaji, tout ça, et tout ça. Les jours avant. Et après, au fil du temps, quand on l'a amené à Chikaji, il y avait déjà gravité. Après, l'examen du spécialiste du BIM, il avait déjà le cancer du col utérin avec, il avait très quel terme encore, non, avec métastase, il y arrive, avec métastase, et qu'il n'y avait pas moyen d'opérer ou d'arranger pour qu'elle vienne en vie. Et il nous avait dit, bon, effectivement, je vous conseille de ramener la malade à la maison, attendez les jours de malade. Mais, elle n'avait pas tout ce problème-là. Tout a commencé avec l'opération. C'est pourquoi je voulais demander à la médecin. Certains médecins peuvent être aussi à la base du cancer, par exemple, du col utérin. Et dans d'autres villages, en fait, la deuxième question, on initie les jeunes filles, l'exotisme, je pense, c'est le mot. Bon, on utilise des fétiches, des produits traditionnels, par le canal vaginal de la femme, on initie la femme à cette vie-là. Est-ce que cette pratique peut se conduire au problème de cancer utérin? C'est ça la réponse. Merci beaucoup.
Merci Grégoire, vous êtes à Demba, bonjour.
Bonjour Monsieur Nudi, bonjour à nos deux invités du jour.
Quelle est votre question par rapport à la prévention du cancer du sein et du col?
Oui, d'entrée en jeu, le mois d'octobre marque celui consacré à la sensibilisation des cancers du sein. Si les femmes et les jeunes filles adoptent ces quelques comportements suivants, elles peuvent prévenir cette maladie du cancer du sein. Premièrement, passer une mammographie tous les 2 ans. Donc si on est âgé entre 50 et 69 ans, il est recommandé de passer une mammographie tous les 2 ans. Parce que cette radiographie à faible dose du sein est encore le test de dépistage le plus faible pour aider les diagnostiquer un cancer du sein. Et aussi, c'est mieux de parler à son médecin de la fréquence à laquelle on doit subir une mammographie. Et d'aider, réduire une consommation d'alcool parce que la consommation d'alcool augmente les risques de cancer du sein. Et 3, manger des aliments aux propriétés anti-cancer, comme les fruits, les épices et les aliments suivants, les soja, les noix et les poissons. Et 4, buvez plus d'eau. 5, évitez de fumer parce que le tabagisme peut aussi influencer cette maladie. Et 6, faire de l'exercice physique. Maintenant, je voulais un peu demander à nos deux invités du jour, ceci. Si une femme est atteinte par cette maladie de cancer du sein et qu'elle met au monde, quelle influence cette maladie peut porter sur la vie du nouveau-né? C'est ça au moins ma préoccupation. Merci beaucoup.
Bien. Dieudonné, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, Alio Kati. Bonjour, Alio Tajite.
Quelle est votre question?
Au départ, je voulais d'abord de montrer ça. Nous avions une cantine qui avait constaté une boule dans le sang. Quand il est allé aux consultations, le médecin a dit que c'était kyste, il faudrait qu'on opère. Comme à l'intérieur, les gens veulent toujours être opérés, on a opéré pour dire que c'était kyste. Et plus tard, elle a constaté toujours que les douleurs montaient toujours. Quand elle est allée pour la deuxième fois, on a constaté maintenant que c'était maintenant le cancer. Alors, Le problème est lentement dans des hôpitaux de notre pays, il n'y a pas de laboratoire spécifique pour chaque cas de maladie. Pour ceux-là qui habitent par exemple les provinces, les territoires, ils sont vités à beaucoup de difficultés de laboratoires, de médecins spécialistes qui peuvent détecter toutefois les maladies. C'est pour cela que je voulais demander un peu aux invités, si possible que quand on constate le cancer chez le patient, et que le patient se présente comme si c'est un cas de kyste, or c'est un cancer, à ce moment-là, quel est le risque le risque que le médecin peut avoir aussi après l'opération.
D'accord, merci. Merci Dieudonné. On souhaite bien entendre aussi les femmes. Nous parlons d'une maladie qui touche les femmes et les jeunes filles. Alors jusque-là, aucune femme ne nous a appelé pour intervenir. Alors j'invite les femmes de la RDC partout où vous nous entendez maintenant à composer le 0-81-890-63-94 pour participer à cette émission. Nous parlons de la prévention du cancer du sein et du col de l'utérus. On va accueillir Platini Bombo de Manakassoy. Bref, dans vos interventions, Platini, bonjour. Voilà, il y a des soucis par rapport à la communication avec Manaka. Gaston Gandou de Kinshasa, bonjour.
Bonjour, Jody.
Quelle est votre question, Gaston?
Ma première question, comment prévenir, est-ce possible de prévenir les cancers qui se transmettent par de génération en génération? Ça, c'est la première question.
Oui.
Et puis, la seconde question, est-ce que la présence d'une masse hein, dans le sein, c'est toujours le limite signe, soit c'est l'évidence signe du cancer, et si je voulais insister par là, parce que nous avons en tant que victimes hein, de mauvais traitements et diagnostics de soi-disant médecins qui ont conduit la plupart des nôtres à la mort, par rapport à cette maladie ici. Et sans vous mentir, ce qui se dit actuellement, si on constate que vous êtes déjà atteint de cette maladie, le message est que vous avez fait des chances de la vie. Le traitement est très cher et au Congo, on a des rares chances de réussir cette maladie. Et voyez un peu ce qui affecte automatiquement la psychologie du patient.
D'accord.
Et ce qui se transmet dans les hôpitaux, ce ne sont pas... Et puis, je voulais finir pour dire que nous, il y a des grands fumeurs, hein, vous avez dit, conduire d'autres maladies pour des vraiment être atteints. Je dis, est-ce que les signes, soit les facteurs que venaient d'énumérer les médecins, là, et l'office, est vraiment un facteur évident pour qu'on tombe, parce qu'on sait voir des gens qui ne font pas de sport, des gens qui ne sont pas cette maladie.
D'accord. Merci Gaston, on a compris.
Rien à voir.
D'accord.
Victimes.
D'accord. Merci. Docteur, vous avez la parole.
Merci. Je voudrais répondre d'abord.
Docteur Jeff.
Merci. Je voudrais répondre d'abord au premier intervenant qui a dit si les médecins sont aussi coupables à du décès, dit à de ces problèmes comme son cas, de sa sœur.
Sa belle-mère qui est décédée juste après l'opération et après on dit il y a eu métastase, donc et puis il n'y avait plus d'espoir.
Nous devons savoir la première chose que le cancer, c'est tous les cancers du col, de l'utérus, est insidieux. C'est après avoir atteint quelques stades déjà où on assiste les symptômes. Maintenant, le médecin doit faire l'examen systématique, doit bien suivre l'anamnèse pour mieux comprendre ce que la patiente est en train de présenter. C'est à ce moment-là que nous devons éviter les risques ou les conséquences.
Mais on a l'impression que lorsqu'on passe à l'opération et juste après, parfois, souvent, ça dégénère.
Oui, pourquoi? Parce que l'opération, donc la chirurgie ou l'intervention chirurgicale, on ne l'applique pas d'emblée comme ça, sans tenir compte de tous ces stades-là. Ça doit conduire vite possible la patiente à mourir parce que il y aura atteinte du système lymphatique et ça va conduire à créer le métastase et la personne va mourir rapidement. C'est pourquoi on dit qu'il faut se méfier d'abord à la chirurgie avant de comprendre mieux les stades où la patiente se trouve. Oui, deuxième question, l'usage de plantes médicinales ou l'utilisation là. Bon, c'est parmi les facteurs qui peuvent causer les cancers du col, il y a aussi l'infection, les infections urogénitales, comme les maladies sexuellement transmissibles. Lorsqu'ils utilisent toutes ces histoires-là pour modifier leur appareil génital, c'est exposer à des risques pour faire cela, parce que vous allez créer le pH acide, plus acide au niveau vaginal, et à ce moment-là, la personne sera exposée à faire des infections à répétition et peut entraîner à ce tableau-là.
D'accord. Et Grégoire qui dit il faut faire la mammographie au moins tous les deux ans.
Oui, il faut faire la mammographie tous les deux ans chez les femmes de 50 à 69 ans. C'est recommandé.
C'est recommandé.
Oui.
Mais pour les jeunes femmes, par exemple, qui ont moins de 50 ans.
Pour les jeunes femmes moins de 50 ans, si on constatait les signes non loin du cancer, c'est à ce moment-là le médecin va préconiser un examen que nous appelons l'échographie mammaire.
Mmh.
Oui.
Et voilà, il y a Dieudonné de Kinshasa qui dit que les laboratoires, il n'a pas souvent confiance aux résultats que donnent nos labos par rapport au cancer. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire à ce sujet?
Il faut faire confiance en nos laboratoires.
Mais d'après, il a constaté que souvent les résultats, on ne donne pas de bons résultats continuer à faire confiance comme ça.
Je peux lui dire ceci. Avant d'atteindre les laboratoires, nous avons l'imagerie tout d'abord. Lorsqu'on a constaté que cette masse qui se trouve au niveau du sein, par exemple, est d'origine cancéreuse, à ce moment-là, on doit faire la biopsie. La biopsie, à son tour...
Après la mammographie.
Oui, on va faire la biopsie.
C'est quoi la biopsie?
C'est un prélèvement d'un fragment de la masse pour amener à la nappe pour confirmer réellement le stade qui se trouve le cancer et qui va permettre à ce que nous puissions aller à la prise en charge. Sans cela, c'est difficile de prendre une telle personne en charge.
Voilà, et Gaston il dit, est-ce possible de prévenir le cancer? Est-ce que la présence de toute masse au niveau du sein signifie qu'il y a un cancer?
Je vais commencer pour la deuxième. La présence de toute masse n'égale pas un cancer. Nous venons d'évoquer ça. Peut-être il était un peu en retard par rapport à notre intervention.
Mmh.
Nous avons dit que lorsque vous avez détecté par un examen qu'on appelle la palpation du sein, vous avez détecté une masse ou une nodule ou une boule, vulgairement, à ce moment-là, le médecin va envisager un examen approprié que nous avons parlé comme l'échographie mammaire pour des jeunes filles et la mammographie pour des plus âgés, donc de 50 à 69 ans. À ce moment-là, si on nous dit que c'est d'origine maligne, et c'est-à-dire c'est le cancer. Si on dit que c'est d'origine bénigne, ce n'est pas le cancer. À ce moment-là, on le soigne autrement que le cancer.
Mmh. Voilà, il déplore aussi le fait que le traitement du cancer coûte trop cher. Après les examens, ça coûte trop cher, c'est vrai cela?
Oui, le traitement coûte trop cher et à deux fois, on n'arrive pas à supporter les effets secondaires, surtout avec la chimiothérapie. Mmh. C'est pourquoi il faut prévenir en amont pour que nous ne puissions pas atteindre toutes ces histoires-là. Lorsque les cancers où nous avons détecté à temps ces nodules ou masses, c'est à ce moment-là, c'est facile de prendre en charge que d'atteindre le stade que nous appelons le cancer.
Monsieur Dadi Bambedi, qu'est-ce que vous faites au niveau de votre structure ONG, par exemple, pour... on a suivi les traitements du cancer, coûtent trop cher. Qu'est-ce que l'ONG PSDS fait pour arriver quand même à aider ces personnes qui sont malades et qui n'ont pas de moyens?
Oui, merci beaucoup, monsieur Jody. Après avoir identifié les 17 cas et plus les autres cas au niveau des églises et tout ça, nous avons commencé déjà à chercher quelque chose pour les aider. Le docteur Ngouma traite ces personnes à moitié prix. Notre partenaire, il traite ces personnes à moitié prix. Mais la plupart de ces personnes ne savent toujours pas payer ces moitié prix-là et reviennent vers nous. C'est à peine que, puisque nous n'avons pas de partenaire financier actuellement, c'est à peine que nous pouvons payer les échographies et tout ça pour beaucoup d'autres personnes. Vu que nous ne savons pas prendre en charge toutes ces personnes-là, nous avons pensé organiser une activité pour récolter le fonds afin de venir en aide à ces personnes-là. Mmh. Voilà, et cette action, nous avons pensé à mettre organisé un concert caritatif en date du 6 octobre, donc c'est samedi déjà. Mmh. Ces concerts nous permettra de récolter le fonds afin de venir en aide à toutes ces personnes-là. Bon, dommage, nous venons de perdre une jeune fille, ça nous fait très mal. Dieu aurait dû, bon, c'est Dieu qui a voulu, mais sinon, on aurait déjà trouvé et mettre à sa disposition. Au moment où je vous parle, il y a encore des cas, des personnes qui attendent notre intervention financière. Donc, d'abord, c'est le premier moyen qu'on a, et ensuite, on va développer d'autres moyens.
Voilà, on va accueillir Alexandre Ilanga de Kisangani. Alexandre, bonjour.
Bonjour,
rapidement, quelle est votre question, Alexandre?
Oui, j'ai deux petites questions à poser à nos invités. La première concerne le cancer du sein. Est-ce que l'examen de mammographie se situe seulement aux femmes ou jeunes filles qui ont le gros sein, même si celui-ci présente les symptômes du cancer? Et enfin, les femmes qui n'ont pas eu l'enfant ou qui ont l'air... Allô?
Oui, on vous écoute.
Oui, qui ont eu leur première grossesse tardivement après 30 ans, ont le risque de développer un cancer. Merci beaucoup.
Bien, Symphorien Bidoye de Kananga, bonjour. Bonjour Symphorien.
Oui, bonjour, monsieur Jeudi, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Quelle est votre question?
Oui, j'ai une petite question. J'ai fait une petite remarque lorsque je suis encore enfant, je crois vers à 15 ans. Qu'au niveau de mon sein gauche, il y avait des petites douleurs et puis il y avait une petite boule à l'intérieur, mais juste après un moment, ça a disparu automatiquement. Je ne sais pas, est-ce que le cancer du sein peut aussi atteindre les hommes ou c'est comment? Et je voulais aussi demander, vous voyez, il y a des gens ou des garçons qui sont mis au monde, qui sont un peu gras là, qui ont aussi des gros seins. Est-ce que le fait d'avoir des gros seins semblables un peu au sein des femmes, ça peut faire à ce que cet homme-là puisse s'attraper le cancer du sein? C'est ça mes deux petites questions. Merci.
Bien. Émilie nous appelle de Colosie. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody. J'avais deux préoccupations en ce qui concerne d'abord la contraception. Je voulais savoir s'il y a un lien entre la consommation des contraceptions et le cancer.
Voilà, si, un lien entre le contraceptif et le cancer.
La contraception, oui, le contraceptif et le cancer.
D'accord, docteur, merci. Une autre question?
Oui, une autre question. Je voulais dire ceci. Quand vous prenez le sein de la femme, apparemment, il y a toujours des boules à l'intérieur. Alors, comment...
Oui? Comment différencier une boule anormale d'une boule anormale, si je comprends bien, docteur Jeff?
Merci, monsieur Jody. Si je peux répondre à madame Émilie, d'abord, avant les autres, la relation entre contraception et les cancers, je peux vous dire ceci, oui. Parmi le facteur de risque pour développer les cancers du col, de l'utérus, il y a aussi la contraception. Mais parmi ces contraceptions, nous avons plus les stérilets. Pourquoi nous les citons? Parce que le stérilet est composé de métal. Ce métal-là a des radiations qui peuvent aussi entraîner les cancers du col. C'est pourquoi nous disons, si par exemple vous êtes en train de prendre ou vous avez reçu un traitement comme la contraception, il faut toujours être surveillé et il faut éviter des infections, parce que l'association des infections et la contraception, c'est ça qui va vous entraîner à ce tableau-là. Maintenant, pour votre deuxième question, le sein, bien sûr...
Elle dit qu'il y a toujours des boules dans
le sein
de la
femme. Oui, c'est là où j'allais expliquer. Le sein de la femme a ce que nous appelons a plusieurs parties. Il y a une partie là qui est la glande. Ne confondez pas la glande avec le masse là ou le boule que nous citons au niveau du sein. La glande mammaire se trouve non loin du téton. Et c'est ce boule là qui permet à la femme d'allaiter, donc qui sécrète le lait maternel pour que l'enfant puisse allaiter. Mais tandis que le boule que nous disons qui peut vous conduire à un tableau de cancer, ce boule-là se trouve à l'intérieur et souvent ils sont mobiles, à deux fois indolores, donc ça peut faire mal ou pas, ça peut être des tailles, de taille moyenne ou soit une grosse boule qui peut vous entraîner à vous amputer le sein. C'est pourquoi nous disons ceci. Il y a un examen que nous appelons l'autopalpation chez la femme qui doit le faire chaque mois une fois et de préférence après 5 jours de règles. Et vous allez diviser votre sein en 4 parties que nous appelons les cadrans. Et dans chaque cadran, vous allez palper lentement. C'est à ce moment-là que vous pouvez constater qu'il y a soit une nodule ou une boule qui se trouve à l'intérieur. Mais tandis que lorsque vous touchez après les mamelons, les tétons, ce que l'enfant tête, les têtes là, donc là c'est la glande mammaire qui sécrète le lait. Voilà.
Donc une boule suspecte se trouve de part et d'autre du sein.
De part et d'autre. Oui. C'est pourquoi il faut diviser les seins
en quatre parties
pour palper.
Palper, voilà. Docteur Fidel Castro, avant de répondre aux autres questions, on va accueillir Docteur Fidel Castro de Mbandaka. Bonjour.
Bonjour, je dis bonjour à tous les auditeurs.
On vous écoute, docteur.
Oui, je dis merci pour cette occasion que vous m'offrez. Je voudrais d'abord remercier, féliciter mon confrère qui est là sur le plateau.
Merci.
Je voudrais apporter ma petite contribution par rapport au thème du jour. Parce que nous parlons du cancer de sein. Je voudrais, je crois, le confrère qui est sur le plateau a pratiquement causé tout. Mais je voudrais m'apesantir sur un aspect de choses, parce que nous parlons de cancer de sein. Je voudrais que l'opinion sache aujourd'hui que le cancer, soit la pathologie dont nous parlons aujourd'hui, a deux formes. Il y a la forme bénigne et la forme maligne. Alors, la forme bénigne peut s'observer en palpant le sein. Ok, c'est ainsi que vous verrez dans la sensibilisation, on tient toujours, on rappelle aux femmes et aux jeunes filles de pouvoir palper le sein de manière régulière. De palper le sein de manière régulière,
oui.
À telle enseigne que si en palpant ce sein, on se rend compte qu'il y a une masse, ou bien communément appelée une boule, et très vite, on doit aller consulter un médecin pour que le médecin interroge encore le sein d'une manière clinique. Le médecin va palper, je crois le confrère l'a dit, il va diviser le sein parce que le malade ne saura pas le faire. Le médecin va diviser le sein en quatre et puis il va localiser la masse. Parce que seul le médecin doit apporter un distinguo entre la glande mammaire et des autres masses anormales. Il faut que l'opinion sache que toute boule ou toute masse dans le sein n'est pas synonyme d'un cancer. Le cancer, c'est la deuxième forme de la pathologie dont nous parlons aujourd'hui. C'est la forme maligne. Il y a la forme bénigne qu'on peut détecter de manière clinique.
Oui.
Quand on palpe, on se rend compte qu'il y a une masse. C'est alors qu'on peut demander la radio, selon que les moyens sont disponibles. Au-delà de la radio, on peut demander une mammographie. Alors, les deux examens vont baliser le chemin pour la confirmation qui sera faite à la biopsie par rapport à l'histologie. Donc voilà, il ne faut pas que l'opinion sache que toute masse dans la sein d'emblée, c'est un cancer. Non, une masse dans le sein n'est pas forcément un cancer. Ça peut être la forme bénigne de la pathologie que nous appelons dimère bénigne. Si, après toutes ces explorations, c'est-à-dire partant de la clinique, la palpation, on fait la mammographie, soit on fait l'échographie, et cela aboutit par faire la biopsie,
oui.
On peut, à partir de la biopsie, confirmer si c'est un cancer ou pas.
D'accord. Merci, docteur.
C'est là que je voudrais m'apesantir.
D'accord.
Et je voudrais aussi, si vous voulez bien, jeudi,
oui.
Parce que c'est une journée internationale du cancer, je voudrais m'apesantir beaucoup plus sur la sensibilisation auprès de nos jeunes sœurs et nos jeunes mamans. Mmh. Elles doivent palper le sang de manière régulière. À chaque fois qu'ils prennent leur douche, à chaque fois qu'ils mettent leur beauté, qu'elles prennent le soin de pouvoir palper le sang pour détecter toute masse anormale. C'est après cette détection de la masse anormale que l'on peut aller consulter un médecin pour que la poursuite de toute cette procédure dont je viens d'étaler précédemment aboutisse à soit à une confirmation, soit à une affirmation de la maladie.
Bien, docteur Fidel Castro de Mandaka, merci pour cette intervention. On retient que toute la présence de toute boule, au niveau du sang n'est pas synonyme de cancer. Monsieur Dadi Bambedi, on va bientôt terminer cet entretien. Vous organisez un concert ce samedi pour collecter des fonds en faveur de ces victimes qui n'ont pas assez de moyens pour recevoir les traitements. Alors, pouvez-vous nous dire comment se présente le programme, comment tout cela va se dérouler?
Oui, merci beaucoup, monsieur Jody. Le concert, comme je venais de dire tout à l'heure, le concert aura lieu déjà ce samedi 6 octobre, donc c'est dans 2 jours pratiquement, à l'église La Compassion, 2e rue du pasteur Marcelo Tounassi, 2e rue Limité Industriel. Nous avons comme prestateur, donc les musiciens qui vont prester, c'est pour la plupart ce sont des hommes de Dieu en tout cas. Nous avons le couple pasteur Atoms et Maman Nadej Mbouma. Nous avons le pasteur Henri Papa Moulaja, nous avons le frère Franck Moulaja, nous avons Maman Lydia, nous avons Maman Feza Lingosa, nous avons Monsieur Sylvain qui représente pratiquement la 3e chorale de l'église de la Compassion. Le concert commence à 16h et prend fin à 19h.
Et comment se fera la collecte des fonds?
Lors, c'est pendant le concert que nous allons pouvoir lancer un appel. Nous allons faire un appel pendant le concert. Mmh. Ceux qui seront là, ceux qui seront disponibles, ceux qui ont quelque chose, pourront apporter et remettre pour que nous allions servir ces personnes-là.
D'accord. Un numéro par lequel on peut vous joindre aussi. Peut-être qu'il y a des personnes de bonne volonté qui vous suivent et qui voudraient bien apporter leur aide.
Oui, c'est le 081
oui.
81 11 651. 081 81 11 651.
Merci Dadi Bambedi, coordonnateur de l'ONG Personnes Synchronisées pour le Développement Social. Nous disons également merci à Dr Jeff Kaziama pour votre participation à cette émission au Capi Service. À la prochaine.
Merci beaucoup.